Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour Culture Média au menu Médias et Culture. Tous les médias et toutes les formes de culture sans couvre-feu. Vous retrouverez évidemment Bertrand Chameroy qui a passé à sa moulinette à lui l'interview du président Macron d'hier soir. Et aussi Charles Decan qui va nous dire quelle audience cette interview a faite. Et je peux déjà vous dire que c'est pas confiné. Nos indispensables du jour, des conseils séries et lectures avec un livre sur Landru. Si je me permettais, je dirais que ça va chauffer. Nous sommes ensemble pour 2 heures en direct et vous pourrez évidemment podcaster l'émission ou la partie qui vous manque sur europe1.fr. Notre infomédia, on va parler du fléau du cybersquattage. C'est quoi ça? Eh bien, ce sont des gens qui piratent des noms de domaine et qui montent un site à la place du site officiel. Même Stéphane Bern en a été victime avec son loto du patrimoine, vous l'entendrez. Puis nos invités, Rachid Embarki et Dominique Rizet, pour le retour d'une émission mythique. Faites entrer l'accusé, ça reprend dimanche sur RMC Story et tout à l'heure, évidemment, avec nous. Et puis enfin, Jean Tellet, pour une biographie, à moins que ce soit un roman historique. Crénom Baudelaire, c'est le titre. Tellet dit de Baudelaire qu'il était le premier punk de l'histoire, mais son livre à lui également est punk. Il y aura en prime son portrait inattendu par Hélène Manarino. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti. Bonjour Charles Decan.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Place à votre journal des médias, le sommaire du jour.
Quel score pour l'interview d'Emmanuel Macron, vous le disiez. TPMP bientôt sanctionné par le CSA. Un nouveau titre de presse voit le jour. Trump et Biden vont finalement s'affronter et une série culte est ressuscitée.
Mais on commence par les audiences. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir à la télé?
Alors en prime, pas de surprise, c'est le match France-Croatie qui s'est hissé en tête des audiences de la soirée. La rencontre a été suivie en moyenne par 6,4 millions de téléspectateurs, soit 26,4% de part d'audience. C'est France 2 qui a pris la deuxième position avec le téléfilm policier La Promesse de l'eau en rediffusion. Au compteur 3,1 millions de téléspectateurs et 13,5% de part d'audience, c'est quasiment autant que lors de sa première diffusion en août 2019. C'est M6 qui est troisième avec le troisième épisode de la saison du meilleur pâtissier. Le concours a profité de la concurrence du foot. Il a fédéré 2,8 millions de personnes pour une part d'audience de 13,7%. Le concours est évidemment largement leader sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans à 30%, un score en hausse sur une semaine.
Culture Média.
Et on commence évidemment ce journal des médias en se penchant sur l'intervention d'Emmanuel Macron hier, conjointement sur TF1 et France 2.
Alors pendant 40 minutes, le président de la République a répondu aux questions d'Anne-Sophie Lapix et Gilles Boulot. Et ces annonces, qui sont très commentées depuis hier soir, ont sans surprise attiré de nombreux téléspectateurs dès 19h55 sur les deux chaînes. Au total, 20,9 millions de personnes étaient au rendez-vous. Dans le détail, ils étaient 11,9 millions sur TF1, soit 40,2% de part d'audience sur France 2. Il n'était que 9 millions, soit 30,5% du public.
Mais 30 et 40%, ça fait 70% de part d'audience, qui est quand même absolument astronomique. Cyril Hanouna, à nouveau dans le collimateur du CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Alors l'animateur de C8 est habitué à se trouver dans le viseur du gendarme de l'audiovisuel. Hier, le magazine Capital a révélé qu'une nouvelle procédure de sanction avait été entamée par le CSA à l'encontre de Touche pas à mon poste, mais aussi du prime La Grande d'Arca. En cause, cette fois, une accusation de publicité clandestine. Faut revenir en septembre 2019. Dans les deux émissions, Cyril Hanouna offre aux spectateurs présents dans le public des billets d'avion de la compagnie aérienne Skyline Airways. À l'antenne, l'animateur producteur cite la marque, la remercie. Il publie aussi un tweet promotionnel. Bref, impossible de passer à côté de Skyline Airways.
Ça, c'est de la publicité clandestine.
Oui, mais c'est pas le plus grave. Le problème, c'est que la compagnie aérienne n'existe pas. Alors, l'affaire est assez floue. Le fondateur de Skyline Airways maintient qu'il n'y a eu aucune escroquerie, mais il s'est quand même passé des choses très louches. Le site web de la société montrait des avions aux couleurs de Skyline Airways, mais il s'agissait d'un montage photo. La compagnie assurait avoir effectué des centaines de vols en août et en septembre, alors qu'aucun avion n'avait décollé. Et le site marchand a été mis en maintenance quelques jours après l'émission, sans jamais être remis en ligne.
Et alors, que risque Cyril Hanouna et la chaîne C8?
Le CSA va devoir trancher. L'éventail de sanctions est large. Ça peut aller d'une mise en garde à une amende, en passant par la suspension de la publicité pendant une certaine période. Là, on est dans la dernière ligne droite de la procédure qui a été entamée l'an dernier. Un rapporteur indépendant avait été désigné. Il a rendu ses conclusions cet été. La chaîne et la production ont eu l'occasion d'y répondre. Et c'est désormais au CSA de faire la part des choses avant de statuer.
Affaire à suivre donc. C'est toujours une bonne nouvelle vu la crise que rencontre la presse. Un nouveau magazine voit le jour cette semaine.
Ça s'appelle Naturissime. C'est une déclinaison trimestrielle de Santé Magazine, au même titre que Bien Manger ou le podcast Hypochondriaque. Louise Bernard a interrogé Aline Perraudin, directrice de la rédaction de Santé Santé Magazine pour parler avec elle du contenu de cette nouvelle déclinaison.
Il y a une partie santé naturelle avec des méthodes naturelles pour prendre soin de sa santé, de soi. Évidemment, c'est des méthodes toujours validées scientifiquement. C'est l'expertise de Santé Magazine que l'on retrouve. Et ensuite, on a une seconde partie, Green Life, où là, on va rendre en quelque sorte à la nature ce qu'elle nous donne. C'est une partie destinée à cultiver l'esprit green au quotidien. Et pour finir, on a une troisième partie qui s'appelle respiration, où là, c'est vraiment une partie pour déstresser, se ressourcer, puiser du bien-être dans la nature. Donc, plein d'articles qui fourmillent de conseils éco-friendly.
Alors, Naturissime a pour objectif de s'adresser à toute personne qui veut prendre soin de soi, mais aussi de l'environnement. Le magazine promet de mettre en avant des solutions positives et de ne pas tomber dans la culpabilisation. Naturissime débarque dans un contexte particulier, a priori pas forcément propice à la presse. Mais pour Aline Perraudin, il n'était pas souhaitable d'attendre plus longtemps pour le proposer à la vente, au contraire.
C'est un projet sur lequel on a travaillé depuis déjà de longs mois. On décide de le sortir maintenant, malgré la crise de Covid, et même au contraire, parce que des sondages récents montrent que la grande majorité des Français jugent nécessaire de changer leurs habitudes de consommation afin de préserver l'environnement. Et on voit que la conscience écologique des Français s'est accrue. Donc pour répondre à cette attente, on a décidé de sortir cette déclinaison green trimestrielle de Santé Magazine.
Autre nouveauté, Facebook qui lance aujourd'hui son premier podcast.
Ça s'appelle Prendre le temps et ça a pour but d'inspirer les gens. C'est la directrice commerciale de Facebook France, Florence Trouche, qui anime la première salve de 8 épisodes d'une vingtaine de minutes chacun. Alors on s'est demandé pourquoi Facebook avait décidé d'investir le secteur très concurrentiel. Florence Trouche l'a expliqué en exclusivité à Louise Bernard.
Facebook, nous, notre mission, c'est de connecter les gens avec leur centre d'intérêt, avec les communautés qui les poussent à l'action ou leur permettent de créer eux-mêmes des communautés qui sont là pour faire progresser le monde de façon positive. Et ces podcasts, quelque part, c'est exactement ce que l'on propose. C'est des points de vue qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, de personnes qu'on n'a pas l'habitude de côtoyer au quotidien et qui, sur un certain nombre de sujets, vont raconter leur expérience, que ce soit des philosophes, des intellectuels, des créateurs, des danseurs, tout type de personne qui arrive par son action, par sa pensée, à proposer une image du monde positive.
Au programme du premier podcast, la notion d'entraide, Pablo Servigne, un chercheur en biologie expert des fourmis, explique que la loi du plus fort n'est pas la loi qui régit les rapports dans le règne animal. Il répond à Charles Osborne, un responsable de conciergerie à 7, qui avait ouvert ses logements vacants aux soignants pendant le confinement pour qu'ils puissent dormir près de leur lieu de travail. Mais quand je dis que les deux interlocuteurs se répondent, c'est au sens figuré plutôt qu'au sens propre, parce que le podcast adopte un format de narration particulier.
C'est pas des interviews, c'est de la narration. C'est toujours deux personnes, en fait, qui vont finalement, alors jamais parler entre elles, parce qu'elles ne dialoguent pas. Et c'est tout le montage qui fait que ces deux témoignages s'entendent comme des dialogues. C'est comment, effectivement, on peut comparer la société des fourmis avec une société d'entraide pendant le Covid, ou bien comment on peut comparer un artiste comme Mathieu Chédid, qui lui nous raconte que grâce aux plateformes digitales, il a pu maintenir le lien avec son public, avec Catherine Pégard, qui est la présidente du Château de Versailles. Pour elle, ça a été primordial pendant le Covid de maintenir le lien et la vie de son château avec les amateurs, les passionnés du Château de Versailles.
Deux épisodes seront mis en ligne chaque mercredi sur toutes les plateformes de podcast comme Spotify, Deezer ou encore Apple Music.
Alors ce feuilleton va toucher à sa fin dans 3 semaines, mais on a encore plusieurs rebondissements en stock. Ce soir, Joe Biden et Donald Trump vont bien s'affronter à la télévision américaine.
Ils vont s'affronter, mais sur 2 chaînes différentes. Comme je vous le disais la semaine dernière, les deux candidats à la présidentielle américaine devaient se rencontrer jeudi lors d'un débat organisé devant des anonymes venus poser leurs questions. Ça s'appelle un town hall, mais comme la commission en charge des débats a insisté pour que le débat se fasse à distance, Donald Trump a refusé d'y participer. Dans la foulée, la chaîne ABC a proposé à Joe Biden de rencontrer des anonymes, mais seul, et le candidat démocrate a accepté. Hier, sa rivale NBC a créé la surprise en annonçant qu'elle allait elle aussi organiser un town hall, elle aussi ce jeudi soir, mais avec Donald Trump. Et la chaîne s'est d'ailleurs fait copieusement critiquer pour son choix de programmation.
Et attendez, ça va être à la même heure ?
Ce sera en partie à la même heure, oui. Le town hall de Joe Biden, il va durer 30 minutes, il sera diffusé de 20h30 à 21h sur NBC. Celui de Donald Trump sera deux fois plus long et NBC le proposera en frontal.
ABC pour Biden
et NBC pour Donald Trump, absolument. De 20h à 21h, donc sur NBC pour Donald Trump. On ne saura que vendredi dans l'après-midi lequel des deux a réalisé la meilleure audience et on s'attend déjà à un tweet triomphal de Donald Trump si c'est lui qui s'impose.
Même s'il perd, il va faire un tweet triomphal, ne vous inquiétez pas.
Et on termine ce journal par une bonne nouvelle pour les fans de Dexter.
La chaîne câblée américaine Showtime l'a annoncé hier soir. Elle a commandé une nouvelle saison de la série culte portée par Michael C. Hall. Elle devrait être mise à l'antenne à l'automne 2021, soit 8 ans après le final de la série, qui n'avait pas franchement été très bien accueillie. Le patron de Showtime a tenu à rassurer les fans. Il n'aurait jamais ressuscité Dexter sans une idée créative qui soit à la hauteur de la série originale. Et cette idée créative, elle est venue de Clyde Phillips, qui était le showrunner des 4 premières saisons de Dexter, avant de céder la place pour les 4 saisons qui ont suivi. Évidemment, Michael C. Hall sera lui aussi de retour dans le rôle du serial killer. À la fin de la saison 8, il décidait de partir vivre en exil loin de la civilisation. Il ne sera donc pas trop compliqué de le faire revenir pour les 10 épisodes que comptera cette nouvelle saison. Le tournage est prévu pour début 2021.
Merci beaucoup Charles Decamps. À demain pour un nouveau journal des médias.
À suivre dans Culture Média, notre info média du jour, on va parler de cybersquattage. Le principe, enregistrer un nom de site internet concernant une marque connue pour le revendre ensuite à l'ayant droit. Stéphane Bern en est d'ailleurs victime avec son loto du patrimoine. On sera avec un spécialiste de la situation, c'est Pierre Bonis, directeur général de l'AFNIC, l'association française pour le nommage internet en coopération. C'est comme ça qu'on dit, c'est précis. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Vondel.
C'est un squattage virtuel qui n'a pourtant rien de virtuel. Le cybersquattage est un phénomène en hausse de 38% entre janvier et septembre de l'année dernière. Et si par exemple vous tapez vandel.com, vous ne tomberez pas sur moi, mais sur un site assez étrange qui n'a rien à voir avec ma petite personne. Dans mon cas, peu importe, je ne comptais pas me servir de l'adresse pour me présenter à la présidentielle, mais pour d'autres personnes ou pour des entreprises, les conséquences sont fortement ennuyeuses. Pour en parler, nous sommes avec Pierre Bonis. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général de l'AFNIC. C'est quoi l'AFNIC ?
L'AFNIC, c'est une association qui a la gestion du .fr et qui est aussi une association de conseil sur la sécurité et l'informatique. Et
je vais donner l'acronyme, l'Association française pour le nommage Internet en coopération. Alors, on arrive à notre sujet. Comment vous définiriez le cybersquattage ? C'est quoi ?
Alors, le cybersquattage, c'est le fait pour quelqu'un d'occuper un espace sur Internet qui est un espace qui pourrait ou qui devrait être occupé par quelqu'un d'autre.
Et quel est l'intérêt pour le squatteur ?
Il y a plusieurs types d'intérêts. Le premier intérêt classique, c'est de revendre cet espace à la personne légitime qui devrait l'occuper.
Ouais. Par exemple, on découvre un chanteur qui monte, on prend son nom, il a fait un tube, on prend son nom en .com, et après on lui dit c'est 10 000, 20 000 euros pour acheter votre nom.
Absolument, ça c'est le premier. Le deuxième motif, ça peut être des arnaques, se faire passer pour notamment une grande marque ou un site de e-commerce et récupérer des numéros de carte bleue en se faisant passer pour ce commerçant.
Ouais.
Et puis le troisième motif, parfois, c'est simplement la vengeance. Ça arrive que, par exemple, des partenaires commerciaux qui se séparent, l'un d'entre eux prenne le nom de son partenaire pour l'empêcher d'aller sur Internet. Donc ça ne va pas être pour le monétiser. Hein, ouais. Ça va être... Donc le motif du cybersquattage n'est jamais un bon motif.
Vous êtes saisi par des personnes, par des entreprises. Combien de cas arrivent à vous chaque année ?
On a à peu près 200 cas par an.
C'est-à-dire un tous les deux jours ? C'est quand même, c'est quand même beaucoup.
Et uniquement sur le .fr, hein, parce qu'on ne parle pas du .com et des autres. Et c'est véritablement de l'arbitrage. C'est-à-dire que c'est une sorte de mini-procédure avec la défense, le requérant, des études juridiques pour arriver à savoir si on peut rendre le nom de domaine à la personne qui nous a sollicité, ouais, ou si on doit le laisser à la personne qui l'utilise.
Parce que parfois, vous le laissez à la personne qui l'utilise, quand c'est manifestement du squattage, du piratage, et même parfois fait depuis l'étranger, ça paraît même invraisemblable qu'il puisse y avoir un débat contradictoire.
Alors, le débat contradictoire, il est normal pour arriver à une décision. Quand c'est très évident, il n'y a aucun problème. On donne raison aux requérants dans plus de la moitié des cas. Parfois, les requérants ne se rendent pas compte que le cybersquatteur ou celui qui considère comme un cybersquatteur, en fait, ne fait rien d'illégal.
Ouais. Qui est concerné ? Des personnalités publiques, des entreprises, des ONG, des associations ? Qui est le plus touché ?
Alors, vous venez de citer, tout le monde peut être touché, mais en fait, les particuliers sont touchés quand ils ont un patronyme un peu connu.
Ouais.
Par exemple, vous êtes touché, manifestement, sur le .com.
Non, parce que Vandel, c'est une famille, je peux vous dire. Ah oui, il y a des skis, c'est une famille qui vient du Jura, il y a des skis Vandel, ça préexistait à mon arrivée sur cette terre. Donc, c'est normal que ça existe à un moment.
Et ça, c'est pas du cybersquattage,
pas du tout.
C'est
pas
du premier arrivé, premier servi, on va dire. La plupart du temps, c'est quand même des entreprises qui se font cybersquatter, soit des marques, soit leur nom. Et puis, c'est souvent aussi la puissance publique. Il y a quelque chose d'assez classique, une annonce ministérielle. Je vais ouvrir un site pour quelque chose et j'ai oublié d'enregistrer le nom de domaine.
Ah bah tiens, exemple d'une victime de cybersquattage, la mission patrimoine de Stéphane Bern. L'adresse loto du patrimoine avec des tirets entre loto et patrimoine n'est pas du tout le site de la mission. Stéphane Bern l'a appris par hasard il y a presque un an.
Il y a toujours des bonnes âmes qui vous appellent pour vous dire « Ah super, j'ai trouvé sur un site loto du patrimoine, j'ai trouvé une statue géante de Stéphane Bern pour quelques dizaines d'euros. » Je dis « C'est quoi cette histoire ?» Et puis, des gens m'ont aussi appelé en me disant « Mais alors, il faut payer pour recevoir ensuite de l'argent du loto du patrimoine. » Je dis « Mais non, c'est absolument pas possible. » Loto du patrimoine, c'est un jeu participatif. Les Français vont dans les bureaux de tabac, ils achètent des tickets de grattage. Et ensuite, oui, avec la Fondation du patrimoine, on verse de l'argent aux monuments en péril. Il faut rien acheter. Donc, c'est là que je me suis rendu compte qu'effectivement, on utilisait abusivement et mon nom et le nom du loto du patrimoine. Mais vous savez, quand vous suivez, vous tracez, ça vous emmène très loin, en Irlande, dans des pays étrangers où la loi française ne s'applique pas. Et donc vous n'avez aucune protection, ni de votre identité, ni de ce qu'on fait. C'est terrifiant, en fait. On se sent très démunis. Alors, ce n'est pas de l'escroquerie, parce qu'ils abusent simplement de la crédulité. Ils jouent avec les mots « loto du patrimoine », alors que le site, c'est missionbern.fr. Ça, c'est le site officiel, oui.
Alors, ce n'est pas de l'escroquerie, mais quand même, le cybersquatteur tente de générer du trafic, donc des revenus publicitaires, grâce à un nom de domaine qui renvoie à quelque chose et à un nom de connu, c'est bien ça ?
Tout à fait. Là, en l'occurrence, le nom connu, c'est le loto du patrimoine.
Ouais. Hein ? Et alors, qui se cache derrière le site lotodupatrimoine.fr ? On marque une pause et on répond à cette question. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
C'est l'info média du jour. Nous sommes en compagnie de Pierre Bonis. Il est le directeur général de l'AFNIC. L'AFNIC, c'est cette association qui gère les noms de domaine en .fr. On parlait du site web lotodupatrimoine.fr. Stéphane Bern a découvert, malheureusement, malgré lui, à l'insu de son plein gré, qu'il était détenu par d'autres gens et que ce n'est absolument pas le site officiel de son association qui est missionbern.fr qui se cache derrière le site web lotodupatrimoine.fr. Vous avez remonté sa trace.
Oui, pour nous, c'est assez simple, puisque comme on gère le .fr, dans notre base, on a le nom du titulaire de ce nom de domaine.
Alors,
comme on a le nom de tous les autres titulaires. Et je ne vais pas vous le donner, puisque c'est une personne physique et qu'on doit protéger son anonymat. Par contre, la Française des Jeux connaît son identité, puisque la Française des Jeux a demandé une levée d'anonymat de ce titulaire.
Adresse qui avait été déposée le 12 mars 2019, soit 6 mois après le premier tirage du loto du patrimoine. Donc il y a un petit malin qui a découvert que cette chose-là existait et bim, il a déposé l'adresse. Le site, il est hébergé où ? En France, à l'étranger, pouvez-vous nous le dire ?
Alors, là, je ne sais pas, mais en fait, ça ne change rien par rapport à l'application de la loi. Si c'est du cybersquattage sous le .fr, il peut être hébergé aux Bahamas. On rétrocédera le nom de domaine à Stéphane Bern ou à la Française des Jeux.
Alors, c'est parfois très bien fait. Là, en l'occurrence, le faux site du loto du patrimoine est assez bien fait. Qu'est-ce qu'on y trouve ? Vous êtes allé voir, évidemment.
Oui, je suis allé voir, pour vous préciser quand même, l'AFNIC, elle gère les noms de domaine. Elle ne regarde pas trop les contenus, ouais. Parce que sinon, on pourrait devenir des censeurs de l'Internet. Néanmoins, on était à regarder ce qu'il y a dedans. C'est effectivement, entre guillemets, assez bien fait. C'est-à-dire qu'il y a pas de choses, en tout cas quand on a été saisi par la Française des Jeux, rien n'a été mis en avant démontrant une arnaque.
Ouais.
C'est typiquement des sites qui vont dire des banalités sur le loto du patrimoine, donc c'est pas du tout intéressant. Je dis aux internautes, surtout n'y allez pas, ça sert à rien.
Moi, je peux vous dire ce qu'il y a, je vais vous le dire, il y a le résultat des tirages, les monuments sélectionnés, et même une biographie de Stéphane Bern, information qu'on peut trouver partout ailleurs,
et
dans tous
les cas.
Probablement
beaucoup mieux écrite sur le site de Stéphane Bern que sur ce site-là.
Sauf que sur ce site, il y a de la pub, et il y a plein de pubs.
Et voilà, c'est donc un moyen de monétiser, comme vous le disiez, la célébrité à la fois de Stéphane Bern et du loto du patrimoine. Et donc, clairement, il y a quelque chose à faire pour la Française des Jeux, certainement. La première chose à faire, tout de même, parce que c'est vrai que c'est quand
même assez embêtant. Attendez, vous savez quoi ? Oui. Ça, on pourrait le dire à Stéphane Bern, parce que lui-même s'est demandé ce qu'il y avait à faire, comment s'en sortir. Ce n'est pas toujours simple. C'est ce qu'explique Stéphane Bern au micro de notre journaliste Magali Buteau.
C'est très difficile, j'ai mis des avocats sur le coup, alors du coup ça me coûte de l'argent, vous voyez, alors que ma mission est bénévole et que je fais ça pour rendre service aux monuments en péril. Et donc je suis obligé de payer des avocats qui essayent de défendre l'intégrité, mais on essaye surtout d'informer les gens en disant écoutez, il y a que deux sites, il y a la Fondation du patrimoine ou sinon il y a missionbern.fr qui recense tous les monuments qui ont été aidés, déjà 180 en deux ans, et tous les monuments qui sont éligibles au loto du patrimoine, et on ne vous demande surtout pas d'argent.
Alors là, le message est passé pour les utilisateurs. L'indice, c'est que quand on vous demande de l'argent, c'est qu'il y a un loup, c'est qu'il y a une arnaque là-dessous. Maintenant, on va répondre à la question. Quels sont les recours possibles ?
Alors, le premier recours vis-à-vis de l'AFNIC, c'est justement de nous saisir, ce qui a déjà été fait par la Française des Jeux dans un premier temps, pour nous désigner ce nom de domaine et nous dire pourquoi c'est du cybersquattage. En moins de deux mois, on donne une réponse et si la réponse est positive, on réattribue ce nom de domaine à la Française des Jeux ou à M. Bern. Ça, c'est la première réponse, c'est celle que nous, on a dans nos mains en tant que gestionnaire du .fr. Après, la deuxième réponse qui, à mon avis, est encore plus efficace, c'est que, au fond, ce nom de domaine ou ce site web, le problème, c'est que c'est le premier qui arrive quand on fait une recherche Google.
Ah oui.
Et donc, ce qu'il faudrait, c'est travailler un petit peu sur le site de la fondation de Stéphane Bern et sur le site de la Française des Jeux. Ça s'appelle du référencement. Ça ne coûte pas très cher, de manière à ce que, quand on tape l'auto du patrimoine dans Google ou dans un autre moteur de recherche, ça soit le site légitime qui arrive en premier. L'arnaqueur, entre guillemets, s'il arrive en quatrième page, ça ne va pas être intéressant pour lui et ça ne va pas embêter les internautes.
Oui, on dit que 90% des gens s'arrêtent sur la première page.
Voilà.
Je ne sais pas si cette statistique est exacte, mais en gros, c'est l'ordre de grandeur.
C'est à peu près l'ordre de grandeur. Donc, si vous arrivez à faire descendre ces sites-là en deuxième page, vous ne risquez globalement plus rien. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas tort et qu'il ne faut pas les attaquer ou essayer de faire en sorte, à travers notre arbitrage, par exemple, de récupérer le nom de domaine. Mais vous avez mis fin au désordre, ouais, au fond. Et ça, c'est du référencement.
Où est-ce que ça en est, cette histoire ? J'ai vu que vous aviez été alerté par un papier du Figaro du mois de septembre qui vous a donné envie de traiter ce sujet.
Oui, on a eu l'occasion d'expliquer ce qui s'était passé à l'occasion de ce papier du Figaro.
Ouais.
On a rendu une décision sur ce site et la décision a été de rejeter la requête de la Française des Jeux. La Française des Jeux, elle peut revenir avec un meilleur dossier. Et si elle a un meilleur dossier, probablement, on donnera suite positive.
Je pense à tous les patrons d'entreprises qui nous écoutent et même tous les particuliers et tous les gens des médias et de la culture qui nous écoutent. Comment se prémunir du cybersquattage ? Que faut-il faire ? Comment anticiper ?
Alors, pour l'anticiper, il faut d'abord avoir une présence en ligne. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être absent d'Internet quelque part, et essayer de chasser ceux qui se font passer pour vous. Donc la première des choses à faire, c'est de construire sa présence
occuper
en ligne.
Occuper le terrain. Là, on va recevoir Gentelet, par exemple, qui dépose gentelet.com et gentelet.fr.
Oui, surtout gentelet.fr. Gentelet.com, ouais, c'est moins intéressant, évidemment. Mais c'est absolument ce qu'il faut faire. Et d'ailleurs, à partir du moment où vous avez fait ça, vous êtes légitime pour vous battre contre tous les cybersquatteurs. Si vous ne l'avez pas fait, vous n'êtes pas légitime. C'est-à-dire que c'est très compliqué de dire « cette personne-là n'a pas le droit de parler de moi, n'a pas le droit de parler de mes produits ». Ce qu'il faut pouvoir dire, c'est « cette personne-là se fait passer pour moi ou parasite ma communication ». Donc il faut construire sa présence en ligne.
Vous avez déposé pierrebonis.fr ?
Tout à fait.
Merci beaucoup Pierre Bonis. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'AFNIC. Les cordonniers sont parfois très très bien chauffés. Chaussés.
Chauffés aussi.
J'allais dire chauffés et chaussés. Je pensais à tout à la fois. Il y a le froid qui arrive. Restez avec nous dans un instant. On va parler du retour de l'émission mythique
Faites entrer l'accusé avec un nouveau duo à sa tête, Rachid Embarki et Dominique Rizet, deux spécialistes police-justice. Ils seront dans ce studio, à tout de suite.
9h, 11h,
Europe 1 Culture Média, Philippe Vondel.
Bonjour Rachid Embarki.
Bonjour.
Bonjour Dominique Rizet.
Bonjour Philippe.
Rachid Embarki, on vous connaît comme présentateur des journaux de la nuit sur BFM TV. Vous étiez là dès le lancement de la chaîne en 2005. Et Dominique Rizet, vous êtes spécialiste police-justice et consultant sur BFM depuis 2012. Et vous avez toujours les réflexes. Vous êtes parti prendre la carte de notre invité précédent, oui. Le patron de l'AFNIC, Pierre Bonis.
À l'ancienne.
Après Christophe Ondelat, après Frédéric Lantieri, vous êtes tous les deux le nouveau duo à la tête de Faites Entrer l'Accusé. L'émission redémarre avec des épisodes frais à partir de dimanche. Ça sera 21h sur RMC Story, le canal 23 de la TNT. C'est une collection de 6 épisodes de 70 minutes. L'ADN reste le même, c'est toujours produit par 17 juin. Qu'est-ce qui change ?
Moi.
C'est Rachid Embarki qui va répondre. Dominique Rizet, vous avez qu'est-ce qui change, Dominique Rizet, dans l'émission ? Alors, vous avez changé la typo. Non, vous avez changé de décor, mais gardé la typo de l'émission.
On a gardé la typo, on a changé de décor et on fait des docs qui sont un peu différents. C'est-à-dire qu'on ne va plus inviter en plateau des avocats, des juges, des témoins, des experts, des parties civiles. Voilà. Tout ça est dans le doc. C'est-à-dire que le journaliste va interviewer ses clients dans le doc. Et les seuls plateaux sont des plateaux Rachid et moi. On est tous les deux. Et moi, je trouve que c'est plus nerveux que les anciens Faites Entrer l'Accusé. Moi, j'aime bien.
Alors, il y a un nouveau générique qu'on va entendre. On entend les pneus qui crissent. Il y a une petite comme ça dimension de suspense. Ça, c'est le générique de début. Mais le générique de fin est resté le même, mythique. Mythique, incroyable.
D'ailleurs, c'est très drôle. Parce
musique
que
de Michel Legrand remixée par Yael Wiesman.
Et c'est très drôle parce que quand vous demandez aux gens, tout le monde connaît cette musique, hein, ouais. Quand vous demandez aux gens de chanter la musique de. Voilà, de fredonner la musique de Faites Entrer l'Accusé, c'est toujours la fin.
Bah évidemment.
C'est jamais le début.
Vous êtes tous les. Pardon, Dominique.
Tueur dans la rue, quand les gens vont commencer à te faire. Moi, ça fait 20 ans qu'on me fait quand on me croise dans la rue, quand je mets l'antivol dans la roue de mon scout. Padam, 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 padam.
Vous êtes tous les deux à la présentation. Comment vous répartissez les rôles ? C'est plutôt vous qui tenez le lead et vous plutôt en consultant.
Le présentateur, c'est Rachid Embarki. Le présentateur, c'est Rachid.
Ouais, alors c'est Embarki.
Moi, Embarka, l'affaire Embarka, c'est bien.
Mais pourquoi pas. Ouais, alors c'est moi effectivement qui, comme vous le dites, tient le lead, c'est-à-dire que je fais le plateau de début, même si il est revu et corrigé, et qu'il y a Dominique aussi dans le plateau de début. C'est moi qui fais les plateaux au milieu quand il y a un tournant dans l'affaire et qu'il faut resituer, ou quand il y a beaucoup de personnages qui se sont surajoutés et qu'il faut resituer tout ça pour le téléspectateur, pour pas qu'il soit paumé. Ouais. Et puis effectivement, il y a la présence accentuée de Dominique, et puis c'est moi aussi qui fais la narration. Voilà. Mais il n'empêche que c'est revu et corrigé, et que Dominique ait une présence qui est nettement plus importante que par le passé.
Comment vous avez choisi le premier épisode, l'épisode de dimanche soir ?
Alors, on choisit en équipe, hein, il y a la rédactrice en chef, Isabelle Clairac, historique.
Pourquoi celui-ci ?
On a choisi celui-ci parce que c'est une affaire qui est en pleine actualité, puisque Christelle Blétry fait partie d'un groupe de jeunes filles qu'on a appelé les disparues de la 6, parce que c'était un cold case pendant 17 ans, avant qu'un inspecteur de police extraordinaire qui s'appelle Nedilko, qu'on voit dans le film, ouais, aille chercher, exhumer ce dossier et sorte cette affaire, avant que l'ADN ne révèle le nom du meurtrier. Donc pour toutes ces raisons-là, on a choisi cette affaire, et parce que cette affaire des disparus de la 6 va encore évoluer. Il y aura d'autres personnes dont on retrouvera, d'autres victimes dont on retrouvera les assassins.
Le titre de l'épisode de ce soir dit quelque chose de l'époque et des médias, c'est le combat de Marie-Rose. Marie-Rose, c'est le prénom de la maman de la victime. Et on voit qu'il y a une nouvelle écriture, parce qu'auparavant, on aurait titré soit sur le nom du meurtrier, par exemple Marc Dutroux, soit sur le nom de la victime, le petit Grégory ou Guylaine Marshall. Cette fois, c'est centré sur la maman, la victime. L'époque a changé.
Oui, l'époque a un petit peu changé, c'est vrai, probablement. Et puis, c'était aussi pour mettre en valeur cette femme qui est extraordinaire, Marie-Rose Blétry, elle s'appelle. Et vraiment, elle est allée chercher au bout d'elle-même la résolution du crime de sa fille.
Et c'est ça qui est aussi extraordinaire et qu'on avait envie de mettre en valeur dans ce document.
Et puis il y a quelque chose aussi sur les affaires criminelles. Tant qu'on n'a pas d'auteur, elle s'appelle l'affaire des disparus de Lyon. Quand on a un auteur, ça devient l'affaire Émile Louis. Ça s'appelle l'affaire des disparus de Mourmelon.
Ouais.
Et quand on a un auteur, ça devient l'affaire Pierre Chanal.
J'ai bien, ouais.
Et les affaires qui ne sont pas solutionnées, elles gardent toujours le nom de la victime, l'affaire Grégory.
Oui, mais là, c'est devenu le combat de Marie-Rose.
Absolument.
Alors, en l'espace de 15 ans, il y aura 10 crimes commis dans un rayon de 100 km. Personne ne fait le rapprochement. Vous expliquez pourquoi? Parce qu'à l'époque, il y a des zones police, des zones gendarmerie. Mais le plus incroyable, et c'est là où on arrive à Marie-Rose, c'est que ce ne sont ni les policiers, ni les gendarmes, ni la justice qui vont faire le rapprochement entre ces 10 crimes, mais une association de mamans. Et c'est là où c'est complètement dingue. Et elle-même, la manière dont elle l'apprend, cette Marie-Rose, c'est juste phénoménal. Elle va voir le médecin, elle comprend que sa fille est morte sans plus de détails, parce que elle, par elle-même, personne ne lui dit les choses ouvertement.
J'ai compris que ma fille était morte, je pense, mais de quoi, de comment, non, je ne savais pas. Le médecin légiste me dit vous avez tout compris. Et voilà. Et il a dit à l'infirmière, emmenez-la dans le box, donnez-lui un médicament. Voilà, c'était fini.
Le crime, les 123 coups de couteau sur sa fille, Marie-Rose Blétry les apprendra le lendemain en lisant le journal.
C'est complètement dingue. En 96, on faisait pas grand cas des victimes.
Non. Et il y a d'ailleurs une petite phrase extraordinaire dans ce document que vous n'avez pas diffusé là, mais que vous verrez dimanche. C'est qu'il y a une maman qui n'est pas Marie-Rose Blétry, une autre.
Vous savez quoi ? C'est l'extrait que j'ai choisi après, à tous les coups.
Qui dit, vous savez, nous on est des petites gens.
Ouais.
Et ça en dit beaucoup.
Vous savez quoi ? On devrait bosser ensemble parce que c'est justement l'extrait qu'on a choisi juste après. Marie-Rose et puis une autre mère de victime qui dénonce le traitement des autorités et la justice pour les petites gens. Elle dit même pas les petites gens, elle dit les petits gens.
Oui.
On s'occupait pas de nous parce qu'on était des petits gens. Ce que j'ai toujours dit. On est dans un monde ouvrier, on est simple, on est des petits gens par rapport aux gens importants. Ils n'avaient rien à faire de ce qui nous arrivait.
Si on ne remue pas la justice, si on ne remue pas les enquêteurs, si on ne remue pas les juges d'instruction, si on ne remue pas le ministère de la justice, on n'arrivera pas à résoudre ces dossiers.
Quand Marie-Rose dit « si on ne remue pas la justice, si on ne remue pas les enquêteurs, on ne pourra pas résoudre ces dossiers », c'est vrai, Dominique Rizet, ou est-ce que c'est une perception qui vient d'abord de la douleur d'une maman ?
Non, c'est complètement vrai. C'est complètement vrai. Dans certains dossiers, la justice, les enquêteurs se désintéressent des affaires parce que le temps passe, parce que les magistrats ou les enquêteurs ne sont pas motivés ou plus motivés. Donc c'est important parfois, et on le voit dans cette affaire, quand on est les parents d'une enfant enlevée, assassinée, c'est important de se manifester. C'est aussi important de choisir un bon avocat, parce qu'un bon avocat, c'est quelqu'un qui va bousculer et la justice et les enquêteurs.
Moi, je vais vous dire quelque chose. Sur cette affaire Marie-Rose Blétry, évidemment, on ne peut pas tout dire, tout raconter, etc., parce qu'il y aurait énormément de détails qu'il faudrait raconter. Le jour de la découverte du corps de Christelle, c'est juste après Noël, les policiers sont en vacances, il y en a un seul qui se rend sur place, et puis comme il en faut d'autres, parce qu'il faut trouver des indices, etc., ce sont des policiers de la brigade financière qui s'y rendent. Et oui, monsieur. Donc, des policiers de la brigade financière. À l'époque, les légistes sont assez rares. Et ben, du coup, c'est le médecin du coin qui vient et qui fait des constatations. Il a compté 123 coups de couteau sur cette jeune fille. Il s'est arrêté là parce que ce soir-là, il avait une soirée.
Waouh. Comment l'enquête a-t-elle été relancée ? On en parle tout de suite. C'est Faites entrer l'accusé qui revient. Rachid Embarki, Dominique Rizet, eux aussi reviennent. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Rachid Embarki et Dominique Rizet, c'est le duo qui incarne le retour de Faites entrer l'accusé, émission mythique qui revient dimanche à 21h sur RMC Story. Il y aura 6 épisodes de 70 minutes, ça s'appelle une collection. En 15 ans, l'émission a évolué, la justice également a évolué, les techniques. D'abord, il y a 15 ans ou il y a 20 ans, il n'y avait pas le traçage via les portables comme c'est le cas aujourd'hui. Peut-être qu'on aurait trouvé très facilement ce meurtrier parce que les portables auraient borné. Et puis, il y a aussi l'ADN. 3 expertises avaient été faites. Une 4e a été demandée grâce à l'insistance de 2 avocats spécialisés dans les cold cases. Je résume un petit peu l'émission et l'arrivée d'un nouveau policier. Mais là, il y a une question d'argent pour faire les expertises.
Ben ouais, pas question que ça dépasse 200 000 euros. Ben oui. Et pas question que ça dépasse 40 000 euros, pardon. Mais ça devait coûter normalement 200 000 euros.
Ouais.
C'est une fortune. Mais ça, c'est le problème de la justice, le problème de moyens. C'est-à-dire que quand vous dépensez... Il y a un budget hein, par tribunal, par... voilà. Et donc, quand vous dépassez, parce que vous avez fait des tests pour résoudre des affaires de cambriolage qui se multiplient dans le coin, eh ben, voilà, il faut faire appel aux techniques scientifiques. Ça coûte de l'argent. Eh ben, ça en fait moins pour ensuite résoudre les crimes. C'est comme ça que ça se passe au quotidien.
Alors ça désigne un suspect, il s'appelle Pascal Jardin, qui n'avait jamais été croisé, mais ils avaient déjà eu affaire à lui, mais sans le savoir, enfin certains policiers, certaines affaires. Et là, vous avez, on voit dans Faites entrer l'accusé, des extraits de sa première audition au commissariat de Bordeaux par le brigadier-chef Nedilko dont vous parliez, ses aveux, c'est filmé. On est toujours étonné que vous parveniez dans l'émission, je me tourne vers vous Dominique Rizet, qui est dès le début de Faites entrer l'accusé, vous étiez là, on est toujours étonné que vous parveniez à avoir ces documents.
On a des journalistes, chaque documentaire est fait par un journaliste qui sont des chasseurs et qui savent bosser et qui bossent vraiment bien.
Ah ça oui.
Et le garçon qui a fait ce documentaire s'appelle Alexis de la Fontaine, c'est lui qui a récupéré ce document qui est exceptionnel, l'audition filmée donc de Pascal Jardin.
Je dois dire en un mot, elle est floutée et la voix a été changée pour que ça part connu. Mais vous, j'imagine en montage, vous avez dû voir vraiment, parce qu'on le voit à un moment donné, fondre en sanglots, on le voit nier, et tout d'un coup complètement craquer.
C'est très fort pour la pédagogie de la justice. Faites entrer l'accusé, c'est pas seulement le récit d'une affaire criminelle, c'est une émission dans laquelle il y a beaucoup de pédagogie, d'enseignement pour ceux qui vont écouter et regarder. Et les auditions sont filmées maintenant. Et cette audition filmée, c'est important de la montrer pour montrer aussi que celui qui a fait ça, c'est un homme avec son humanité qui pleure à la fin. Et c'est important de le montrer. C'est pour ça qu'on l'a montré.
Il pleure à la fin, mais après, il revient sur ses aveux. Il y a aussi l'interview de Michael Jardin. Je le cite parce que c'est le propre fils du meurtrier. Là aussi, on est étonné. Il a visage découvert, la voix non floutée. Comment avez-vous réussi à le convaincre de parler à visage découvert?
Il est allé au procès de son père. Et il a, aux deux, hein. Puisqu'il y a eu un premier procès, puis un appel. Il a essayé de convaincre son père d'avouer, parce que lui-même était persuadé que c'était lui, de toute façon. Et il n'est pas arrivé d'avouer à l'audience, ouais. De reconnaître son crime et de demander pardon. Il l'avait fait une première fois devant le policier, mais il ne l'a pas refait lors des audiences.
Et donc
pour lui, c'est un drame. Mais vous remarquerez qu'il n'a pas changé de nom.
Exactement. Vous êtes sur RMC Story, non plus sur France 2. Enfin, l'émission, le budget de l'émission a été revu à la baisse. L'émission dure 70 minutes, désormais 1h10, contre 1h30 auparavant. Sur quoi d'autre avez-vous dû rogner, Dominique Rizet?
Alors, moi, sur l'aspect financier, je vous avoue que j'en sais pas grand-chose.
Non, je ne vous demande pas si vous êtes moins payé. Est-ce qu'il y a des choses de production que vous ne pouvez plus faire, que vous pouviez faire quand c'était sur France 2?
Il faudrait demander aux journalistes, mais je ne suis pas sûr qu'ils soient très contraints dans leur façon de bosser, puisque ce doc, il est, moi, je le trouve encore plus beau que certains des Faites entrer l'accusé qu'on a fait. Il est plus nerveux, il est plus, pardon pour ces termes, hein, il est plus nerveux, il est plus punchy. Il y a des Faites entrer l'accusé, des anciens, devant lesquels moi il m'est arrivé de m'endormir parce qu'on tirait tellement mais on avait une
pour
histoire
faire l'heure et
voilà pour faire l'heure et demie on tirait tellement
on tire à la ligne
là c'est nerveux ça va plus vite et finalement on y a gagné
rapidement. Rachid Mbarki, après l'affaire des disparus de la 6 dimanche, les prochaines affaires traitées?
Eh bien la suivante, celle qui sera diffusée le 25 octobre dans mon souvenir, c'est l'affaire Eva Boursault, un crime horrible commis à Toulouse.
La fiction s'empare de plus en plus des grandes affaires judiciaires. Il y a eu l'affaire Jacqueline Sauvage avec Muriel Robin dans le rôle-titre, Xavier Dupont de Ligonnès sur Netflix, oui, et aussi sur M6, l'affaire Grégory sur Netflix, beaucoup d'autres. Dominique Rizet, dans une interview à Télé 2 semaines, il y a eu quelques semaines, vous disiez que la fiction rende justice à la place de la justice, ça me dérange. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Je parlais de l'affaire Grégory sur Netflix, où le doc, les 6 documentaires, les 6 épisodes sont hyper orientés. Et qui vont vers la culpabilité claire de Bernard Laroche. Or, Bernard Laroche, je reste toujours sur cette... Je ne sais pas si c'est lui ou pas. C'est vrai qu'il entre parfaitement dans la case vide du puzzle. Mais jusqu'à plus informé, il est mort innocent. Il n'a jamais été condamné. Et il faut être extrêmement prudent et respecter cette présomption d'innocence jusqu'au bout.
On restera sur ces mots de prudence. Merci beaucoup, Rachid Mbarki et Dominique Rizet. Quelle musique ! Le retour de Faites Entrer l'Accusé. C'est dimanche à 21h sur RMC Story. C'est le canal 23, la TNT. Merci. Culture Média continue évidemment après le rappel des titres de 10h. On va recevoir Eva Rock pour son zapping du lendemain et Bertrand Chameroy pour son écran de veille. Il a passé à la moulinette l'interview d'Emmanuel Macron hier conjointement sur la 2 et sur la 1. Et puis notre invité, l'écrivain Jean Tellet, pour une biographie très surprenante et très personnelle de Baudelaire. Puis dans Les Indispensables, un livre historique sur un meurtrier. Encore, c'est Landru. On sait que c'est lui le coupable. Et une série britannique à l'humour absurde. À tout de suite.